Chapitre 4. Le lendemain matin, Lavretsky et son hôte prenaient le thé au jardin, sous un vieux tilleul. « Maestro, dit entre autres choses Lavretsky, vous aurez bientôt à composer une cantate solennelle. »«
À quelle occasion ?»«
À l'occasion du mariage de M. Panchine et de Mlle Lise. Avez-vous remarqué comme il était hier attentif auprès d'elle ?» Il paraît que l'affaire est en bon train.
Oh, cela ne sera pas, s'écria Emma.
Pourquoi?
Parce que c'est impossible.
Du reste, ajouta-t-il un instant après, dans ce monde tout est possible, surtout ici chez vous, en Russie. Bon, laissons, si vous le voulez bien, la Russie de côté, mais que trouvez-vous de mauvais dans ce mariage?
Ben, tout est mauvais, tout, mademoiselle Lise. Une jeune fille sensée, sérieuse. Elle a des sentiments élevés, et lui, oh, c'est un dilettante, c'est tout dire.
Mais elle l'aime. Le maestro se leva soudain.
Non, elle l'aime pas, dit-il. C'est-à-dire, elle est très pure de cœur. Elle ne sait même pas elle-même ce que cela signifie aimer.
Madame von Kalitin lui dit que le jeune homme est bien. Elle a confiance en Madame von Kalitin, parce que malgré ses 19 ans, elle n'est qu'un enfant. Le matin, elle prie, le soir, elle prie encore. Tout cela est fort bien, mais elle ne l'aime pas. Elle ne peut aimer que le beau, elle lui n'est pas beau, je veux dire, son âme n'est pas belle.
L'aime parlait rapidement avec feu, tout en marchant à petits pas, en long et en large, devant la table à thé. Ses yeux semblaient courir sur le sol.
Mon cher maestro, dit tout à coup Lavretsky, il me semble que vous êtes vous-même amoureux de ma cousine.
L'aime s'arrêta tout court.
Oh, je vous prie, dit-il d'une voix mal assurée, ne me raillez pas ainsi, je ne suis pas un fou. J'ai devant moi les ténèbres de la tombe et non point l'avenir couleur de rose.
Lavretsky eut pitié du vieillard et lui demanda pardon. Après le thé, l'aime lui joua sa cantate, puis pendant le dîner se remit à parler de Lise à l'instigation de Lavretsky. Celui-ci prêtait l'oreille avec un évident intérêt.
Qu'en pensez-vous, Christopher Fiodorovitch ? Dit-il enfin. Tout est maintenant en bon ordre ici et le jardin est en fleurs. Si je l'invitais à venir passer une journée avec sa mère et ma vieille tante, hein ? Cela vous serait-il agréable ?
L'aime inclina la tête de côté.
Invité ? Murmura-t-il.
Mais il n'est pas nécessaire d'inviter Panchine.
« Non, cela n'est pas nécessaire !» répliqua le vieillard avec un sourire presque enfantin.
Deux jours après, Fiodor Ivanovitch se rendit en ville chez les Kalitin. Il trouva tout le monde à la maison, mais il ne s'ouvrit pas d'abord de son projet. Il voulait auparavant en parler à Lise. Le hasard vint à son aide. On les laissa seuls au salon. Ils se mirent à causer. Elle avait déjà eu le temps de s'habituer à lui, et puis elle ne se laissait facilement intimider par personne. Lui l'écoutait, le regard attaché sur elle, et répétait à part lui les paroles de l'aime dont il partageait l'opinion. Il arrive quelquefois qu'entre deux personnes qui se connaissent à peine, un intime rapport s'établit soudain. Le sentiment de ce contact mystérieux se trahit aussitôt dans les regards, dans la douce et amicale expression du sourire, et même dans les gestes. C'est précisément ce qui advint entre Lise et Lavretsky. « Voilà comme il est, » pensa-t-elle en le regardant d'un air d'intérêt. « Voilà comme vous êtes, » pensa-t-il de son côté. Aussi ne fut-il pas très surpris quand elle lui annonça, après un peu d'hésitation, qu'elle avait depuis longtemps à cœur de lui dire quelque chose, mais qu'elle craignait de le fâcher.
« Oh, n'ayez pas cette crainte, parlez, » dit-il,
en s'arrêtant devant elle. Lise leva vers lui ses yeux limpides. « Vous êtes si bon, commença-t-elle. » Et en même temps, elle pensa, « Oui, il est véritablement bon. Excusez-moi, je ne devrais peut-être pas vous parler de ces choses-là, mais comment avez-vous pu, enfin, pourquoi avez-vous quitté votre femme ?» Lavretsky tressaillit, regarda Lise et s'assit auprès d'elle. Oh, « Mon enfant, dit-il, ne touchez pas, je vous prie, à cette plaie. Vos mains sont délicates et pourtant vous me feriez souffrir. » « Je sais, continua Lise, comme si elle n'avait pas entendu, elle est coupable envers vous. Je ne veux pas la justifier, mais comment peut-on séparer ce que Dieu a uni ?»« Ah, nos convictions là-dessus sont trop différentes, Elisaveta Mikhailovna, dit Lavretsky assez sèchement. Nous ne nous comprendrions pas. » Lise pâlit. Tout son corps frissonna, mais elle ne se tut point. « Vous devez pardonner, dit-elle doucement, si vous voulez qu'on vous pardonne aussi. Pardonner » s'écria Lavretsky. « Mais connaissez-vous bien la personne pour laquelle vous intercédez ? Pardonner à cette femme ? L'accueillir de nouveau dans ma maison, elle, cet être frivole et sans cœur ? Et qui vous dit qu'elle veuille venir après de moi ? Oh, soyez tranquille, elle est très satisfaite de sa position. Mais de quoi parlons-nous ? Son nom ne doit pas sortir de votre bouche, vous êtes trop pur. Il vous est impossible de comprendre une créature semblable. Pourquoi insulter ? Murmura Lise avec effort. Le tremblement de ses mains devenait visible. « Vous l'avez quitté vous-même, Fiodor Ivanovitch. »« Mais, je vous le répète, répliqua Fiodor dans un élan involontaire d'impatience, vous ne connaissez pas cette créature. »« Alors, pourquoi l'avez-vous épousée ?» murmura Lise en baissant les yeux. Lavretsky se releva brusquement. « Pourquoi me suis-je marié ?» J'étais jeune alors, sans expérience. Je me suis trompé. J'ai été entraîné par les charmes d'une beauté extérieure. Je ne connaissais pas les femmes, je ne connaissais pas le monde. Dieu veuille que vous fassiez un mariage plus heureux, mais croyez-moi d'avance, on ne peut répondre de rien. Et moi aussi, je puis être malheureuse, murmura Lise d'une voix tremblante. Mais alors il faudra se résigner. Je ne sais pas parler, mais si nous ne nous résignons pas, Lavretsky serra les poings et frappa du pied. Oh, ne vous fâchez pas. Pardonnez-moi, dit Lise aussitôt. En ce moment, Madame Maria Dmitrievna entra dans le salon. Lise se leva et voulut sortir. Attendez, s'écria inopinément Lavretsky. « J'ai une grande prière à adresser à madame votre mère et à vous. C'est de venir visiter ma nouvelle demeure. Vous savez que je me suis procuré un piano. L'aime est chez moi. Les lilas sont en fleurs. Vous pourriez respirer un peu l'air de la campagne et revenir le même jour. Consentez-vous ?» Lise regarda sa mère. Maria Dmitrievna prit un air souffrant, mais Lavretsky ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche et lui baisa les mains. Maria Dmitrievna, toujours sensible aux procédés gracieux et surprise d'un si aimable procédé de la part d'un loup marin comme Théodore, se laissa toucher et accorda son consentement. Pendant qu'elle faisait ses combinaisons sur le choix du jour, Lavretsky s'approcha de Lise et, tout ému encore, lui dit à la dérobée « Merci, vous êtes bonne, j'ai eu tort. » La figure pâle de la jeune fille s'illumina d'un pudique sourire de joie. Ses yeux sourirent aussi. Jusqu'à ce moment, elle avait craint de l'avoir offensé. « Vladimir Nikolaïevitch pourra venir avec nous ?» demanda Maria Dmitrievna. « Oh, certainement, répliqua Lavretsky, mais ne serait-ce pas mieux de rester en famille ?»« Il me semble, » commença Maria Dmitrievna. « Oh, du reste, ajouta-t-il, il en sera comme vous le voulez. » Il fut décidé qu'on prendrait Lenotchka, Estrulchka, Marfa Timoïevna refusa de la partie. Cela me fatigue, dit-elle, de remuer mes vieux os. On ne saura où coucher paisiblement chez toi. D'ailleurs, je ne puis pas dormir dans un lit qui n'est pas le mien. Là, je laisse la cassette émoussée. Lavretsky n'eut plus l'occasion de parler à Lise, mais il la regardait avec une expression qui la rendait tantôt heureuse, tantôt confuse, et parfois lui inspirait un sentiment de pitié. En prenant congé d'elle, il lui serra la main. Quand elle resta seule, elle devint pensive. 2 jours s'étaient écoulés. Maria Dmitrievna, selon sa promesse, arriva avec sa jeune cohorte à Vassilievskoïe. Les jeunes filles coururent aussitôt au jardin. Maria Dmitrievna passa en revue toutes les pièces, dont elle loua l'aménagement d'un air plein de langueur. Elle considérait sa visite à Lavretsky comme une marque de grande condescendance de sa part, en quelque sorte comme une bonne action. Elle sourit avec bienveillance lorsque Antoine et Apraxeia, selon l'ancien usage des domestiques serfs, s'approchèrent pour lui baiser la main, et d'une voix délicate, elle demanda le thé. À la grande mortification d'Antoine, qui avait mis ses gants blancs tricotés, le thé ne fut pas servi par lui, mais par le valet de chambre de Lavretsky, qui, au dire du vieux, n'entendait rien à l'étiquette du service. Par contre, Antoine reprit ses droits et se vengea au dîner. Il se plaça de pied ferme derrière la chaise de Maria Dmitrievna et ne céda sa place à personne. L'apparition inusitée à Vassilievskoïe et d'autres étrangers réjouissait et troublait le vieillard. Il éprouvait de la satisfaction de voir des personnes d'un certain âge en relation avec son maître. Au surplus, il n'était pas le seul qui fut troublé ce jour-là. Lem n'était pas moins agité. Il avait mis un frac couleur tabac au basque pointu et serré fortement un mouchoir autour de son cou. Il toussait continuellement et se retournait sans cesse avec une expression agréable et bienveillante. Lavretsky remarqua avec plaisir que le bon accord entre lui et Lise continuait. En entrant dans la chambre, elle lui tendit amicalement la main. Après le dîner, Lem tira de la poche de son frac, dans laquelle il glissait à chaque instant la main, un petit rouleau de papier de musique, et les lèvres pincées, le plaça en silence sur le piano. C'était la romance qu'il avait composée la veille sur d'anciennes paroles allemandes où était faite allusion aux étoiles. Lise se plaça aussitôt au piano et déchiffra la romance. Hélas, la musique en était compliquée et d'une forme pénible. On voyait que le compositeur avait fait tous ses efforts pour exprimer la passion et un sentiment profond, mais il n'en était sorti rien de bon. L'effort seul se faisait sentir. Lavretsky et Lise s'en aperçurent tous les deux, et Lem le comprit. Sans proférer une parole, il remit sa romance en poche. À la demande que lui fit Lise de la jouer encore une fois, il hocha la tête et dit d'une manière significative « Oh, maintenant, c'est fini !» Puis il se replia sur lui-même et s'éloigna. Vers le soir, on alla en grande compagnie à la pêche. Dans l'étang, au-delà du jardin, il y avait beaucoup de tanches et de goujons. On plaça Maria Dmitrievna dans un fauteuil tout près du bord, à l'ombre. On étendit un tapis sous ses pieds et on lui donna la meilleure ligne. Antoine, en quantité d'ancien et habile pêcheur, lui offrit ses services. C'était avec le plus grand zèle qu'il attachait les vermisseaux à l'hameçon et jetait lui-même la ligne en se donnant des airs gracieux. Le même jour, Maria Dmitrievna avait parlé de lui à Fiodor Ivanovitch dans un français digne de nos institutions de demoiselles. Il n'y a plus maintenant de ces gens comme ça, comme autrefois. Lem, accompagné de deux jeunes filles, alla plus loin jusqu'à la digue. Lavretsky s'établit à côté de Lise. Les poissons mordaient à l'hameçon. Les tanches, suspendues au bout de la ligne, faisaient briller en frétillant leurs écailles d'or et d'argent. Les exclamations de joie des petites filles retentissaient sans cesse. Maria Dmitrievna elle-même poussa une ou deux fois un petit cri de satisfaction prémédité. C'étaient les lignes de Lavretsky et de Lise qui fonctionnaient le plus rarement. Cela venait probablement de ce qu'ils étaient moins que les autres occupés de la pêche et laissaient les bouchons flotter jusqu'au rivage. Autour d'eux, les grands joncs rougeâtres se balançaient doucement. Devant eux, la nappe d'eau brillait d'un doux éclat. Ils causaient à voix basse. Lise se tenait debout sur le radeau. Lavretsky était assis sur le tronc incliné d'une sittise. Lise portait une robe blanche avec une large ceinture de ruban blanc et d'une main elle tenait son chapeau de paille suspendu. De l'autre, elle soutenait avec un certain effort sa ligne flexible. Lavretsky considérait son profil pur et un peu sévère, ses cheveux relevés derrière les oreilles, ses joues si délicates, légèrement hâlées comme chez un enfant. Et à part lui, il se disait oh, « qu'elle est belle ainsi, planant sur mon étang !» Lise ne se tournait pas vers lui, elle regardait l'eau. On aurait su dire si elle fermait les yeux ou si elle souriait. Un tilleul projetait sur eux son ombre. « J'ai beaucoup réfléchi à notre dernière conversation, » dit Lavretsky, « et je suis arrivé à cette conclusion que vous êtes très bonne. Mais je n'avais pas l'intention, » balbutia Lise toute confuse. « Vous êtes bonne, » répéta Lavretsky. Et moi, avec ma rude écorce, je sens que tout le monde doit vous aimer. Lem par exemple. Celui-là est tout bonnement amoureux de vous. Un léger tressaillement contracta les sourcils de la jeune fille, comme cela lui arrivait toujours quand elle entendait quelque chose de désagréable. Oh, il m'a fait beaucoup de peine aujourd'hui, reprit Lavretsky avec sa romance manquée. Que la jeunesse se montre inhabile à produire, passe encore. Mais c'est toujours un spectacle pénible que celui de la vieillesse impuissante et débile, surtout quand elle ne sait pas mesurer le moment où ses forces l'abandonnent. Un vieillard supporte difficilement une pareille découverte. Attention, le poisson mord. « On dit, » ajouta Lavretsky après un moment de silence, « que Vladimir Nikolaïevitch a écrit une très jolie romance. »« Oui, » répondit Lise, « c'est une bagatelle qui n'est pas mal. »« Et qu'en pensez-vous » demanda Lavretsky. « Est-il bon musicien ?»« Me semble, oui, qu'il a des grandes dispositions pour la musique, mais... » Jusqu'à présent, il ne s'en est pas suffisamment occupé. Est-ce un homme de bien? Lise se prit à rire et jeta un regard interrogateur sur son compagnon. « Quelle singulière question !» s'écria-t-elle en tirant l'hameçon et le rejetant plus loin. « Pourquoi donc singulière ? Je vous questionne en nouvel arrivé, comme parent. »«
Comme parent ? » ?»«
Oui, il me semble que je suis un oncle à vous. »
Oh, Vladimir Nikolaïevitch a le cœur bon, dit Lise. Il a de l'esprit, maman l'aime beaucoup.
Et vous l'aimez-vous?
C'est un galant homme, pourquoi ne l'aimerais-je pas?
Ah, fit Lavretsky.
Et il se tut.
Une expression à moitié triste, à moitié ironique, se répandit sur ses traits. Son regard obstiné troublait Lise, mais elle continuait à sourire.
Eh bien, que Dieu leur accorde du bonheur, murmura-t-il enfin, comme se parlant à lui-même, et il tourna la tête.
Lise rougit. Vous vous trompez, dit-elle. Vous avez tort de croire. Vladimir Nikolaïevitch vous déplairait-il? Lui demanda-t-elle inopinément.
Mais il me déplaît.
Pourquoi donc?
Je le crois un homme sans cœur.
Le sourire disparut des lèvres de Lisaveta.
Vous êtes habitué à juger sévèrement le monde, dit-elle après un long silence.
Bon, je ne le crois pas. Quel droit ai-je de me montrer sévère pour les autres, s'il vous plaît, quand j'ai tant besoin moi-même d'indulgence? Avez-vous donc oublié? Les gens insignifiants sont les seuls qui ne se moquent pas de moi. À propos, ajouta-t-il, avez-vous tenu la promesse que vous m'aviez faite?
Laquelle?
Avez-vous prié pour moi?
Oui, j'ai prié pour vous et je prie tous les jours. Vous ne devriez pas parler de cela légèrement.
Lavretsky protesta que telle n'avait jamais été son intention, qu'il respectait profondément toutes les convictions, puis il se lança dans une dissertation sur la religion, sur le christianisme en général et sur son rôle dans l'histoire de l'humanité.
« Mais il faut être chrétien, dit Lise en faisant un certain effort sur elle-même, non pour essayer d'interpréter les choses célestes ou terrestres, mais parce que chaque homme doit mourir. »
Lavretsky leva les yeux sur Lise d'un air surpris et rencontra son regard.
« Quelle est cette parole que vous venez de prononcer ? » dit-il.
« Cette parole n'est pas de moi, » répondit-elle.
« Pas de vous, mais pourquoi avez-vous parlé de mort ?»«
Je ne sais pas, j'y pense souvent. »«
Souvent ? » ?»«
Oui. »
On ne le dirait pas, en vous voyant en ce moment. Vous avez une physionomie si gaie, si sereine, si souriante.
Oui, effectivement, je suis gaie maintenant, répondit-elle avec naïveté.
Lavretsky fut tenté de lui saisir les deux mains et de les serrer avec effusion.
Lise, Lise, viens ici voir la belle tanche que je viens de retirer! S'écria Maria Dmitrievna.
Un instant, maman, répondit Lise allant à elle.
Et Lavretsky resta seul.
Je lui parle comme si j'en avais pas fini avec la vie, pensa-t-il.
Lise, en s'éloignant, avait suspendu son chapeau à une branche. Lavretsky le regardait d'une façon étrange et avec une sorte de tendresse. Ce chapeau avec ses longs rubans chiffonnés. Bientôt Lise revint et reprit sa place sur le radeau.
Mais pourquoi vous semble-t-il que Vladimir Nikolaïevitch n'a point de cœur? Demanda-t-elle après quelques instants.
Bon, je vous ai déjà dit que je puis me tromper, au reste, le temps le démontrera.
Lise devint pensive. Lavretsky lui parla de son genre de vie à Vassilievskoïe, d'Antoine, de tout son monde. Il sentait le besoin de parler à Lise, de lui communiquer tout ce qui se passait dans son âme. Elle l'écoutait avec tant de grâce, si attentivement. Ses rares observations et ses répliques lui paraissaient si simples et empreintes de tant de raison. Il alla même jusqu'à le lui dire. Lise en fut étonnée. « Vraiment, dit-elle, moi qui me suis cru longtemps pareil à ma femme de chambre, Nastéa, qui n'a pas de mots à elle et qui disait à son fiancé, « Tu dois t'ennuyer avec moi, tu me dis toujours de jolies choses et moi je n'ai pas de mots à moi. » « Grâce à Dieu, pensa Lavretsky, qu'il en soit ainsi. » La soirée s'avançait et Maria Dmitrievna témoigna le désir de rentrer. On eut de la peine à arracher les petites filles de l'étang et à les habiller. Lavretsky promit d'accompagner ses visiteuses jusqu'à mi-chemin et fit seller son cheval. En mettant Maria Dmitrievna en voiture, il s'aperçut de l'absence de Lem. Le vieillard était introuvable, il avait disparu sitôt la pêche finie. Antoine ferma la portière avec une vigueur remarquable pour son âge et cria d'un ton d'autorité « Avancez, cocher !» La voiture s'ébranla. Maria Dmitrievna occupait le fond avec Lise. Les petites filles et la femme de chambre étaient sur le devant. La soirée était chaude et calme. Les deux glaces étaient baissées et Lavretsky trottait du côté de Lise, la main appuyée sur la portière. Il laissait flotter la bride sur le cou de son cheval. De temps en temps, il échangeait quelques paroles avec la jeune fille. Le crépuscule s'éteignait, la nuit était venue, et l'air s'était attiédi. Maria Dmitrievna sommeillait. Les petites filles et la femme de chambre s'endormirent aussi. La voiture roulait rapidement et d'un pas égal. Lise se pencha hors de la portière. La lune qui venait de se lever éclairait son visage. La brise embaumée du soir lui caressait les yeux et les joues. Elle éprouvait un indicible sentiment de bien-être. Sa main s'était posée sur la portière, à côté de celle de Lavretsky. Et lui aussi se sentait heureux. Il s'abandonnait au charme de cette nuit tiède, les yeux fixés sur ce jeune et bon visage, écoutant cette voix fraîche et timbrée qui lui disait des choses simples et brèves. Il arriva ainsi, sans s'en apercevoir, à la moitié du chemin, et ne voulant pas réveiller Maria Dmitrievna, il serra légèrement la main de Lise et lui dit « Nous sommes amis à présent, n'est-ce pas ?» Elle fit un signe de tête. Il arrêta son cheval. La voiture continua sa route en se balançant sur ses ressorts. Lavretsky regagna au pas son habitation. La magie de cette nuit d'été s'était emparée de lui. Tout lui semblait nouveau, en même temps que tout lui semblait connu et aimé de longue date. De près ou de loin, l'œil distrait ne se rendait pas bien compte des objets, mais l'âme en recevait une douce impression. Tout reposait, et dans ce repos, la vie se montrait pleine de sève et de jeunesse. Le cheval de Lavretsky avançait fièrement en se balançant. Son ombre noire marchait fidèlement à son côté. Il y avait un certain charme mystérieux dans le bruit de ses sabots, quelque chose de gai dans le cri saccadé des cailles. Les étoiles semblaient noyées dans une vapeur lumineuse et la lune brillait d'un vif éclat. Ses rayons répandaient une nappe de lumière azurée sur le ciel et brodaient d'une marge d'or le contour des nuages qui passaient à l'horizon. La fraîcheur de l'air humectait les yeux, pénétrait par tous les sens comme une fortifiante caresse et glissait à larges gorgées dans les poumons. Lavretsky était sous le charme et se réjouissait de le ressentir. « Nous vivrons encore, » pensait-il. « Je ne suis pas brisé pour jamais. » Et il n'acheva pas. Puis il se mit à songer à Lise. Il se demanda si elle pouvait aimer Panchin. Il se dit que s'il l'avait rencontrée dans d'autres circonstances, sa vie eût suivi probablement un autre cours. Qu'il comprenait l'aime, quoiqu'elle n'eût pas de paroles à elle, comme elle disait. Mais elle se trompait, elle avait les paroles à elle. Et Lavretsky se rappelait ce qu'elle disait. N'en parlez pas légèrement. Il continua sa route, la tête baissée. Et puis soudain, se redressant, il murmura lentement. J'ai brûlé tout ce que j'adorais jadis, et j'adore maintenant tout ce que j'ai brûlé. Il poussa son cheval et le fit galoper jusqu'à sa demeure. En mettant pied à terre, il se retourna une dernière fois avec un sourire involontaire de reconnaissance. La nuit, douce et silencieuse, s'étendait sur les collines et les vallées. Cette vapeur chaude et douce descendait-elle du ciel? Venait-elle de la terre? Dieu sait de quelle profondeur embaumée elle arrivait jusqu'à lui. Lavretsky envoya un dernier adieu à Lise et monta le perron en courant. La journée du lendemain fut bien monotone. Il plut dès le matin. Lem avait le regard sombre et serrait de plus en plus les lèvres, comme s'il avait fait le vœu de ne plus parler. En se mettant au lit, Lavretsky prit une liasse de journaux français qu'il n'avait pas lu depuis plus de 15 jours. Il se mit d'un mouvement machinal à en déchiffrer des enveloppes et à parcourir négligemment les colonnes qui ne renfermaient du reste rien de nouveau. Il allait les rejeter loin de lui lorsque le feuilleton d'une des gazettes lui frappa les yeux. Il bondit comme si un serpent l'eût piqué. Dans ce feuilleton, ce monsieur Édouard, que nous connaissons déjà, annonçait à ses lecteurs une nouvelle douloureuse. « La charmante et séduisante moscovite, écrivait-il, une des reines de la mode, l'ornement des salons parisiens, Madame de Lavretsky, était morte presque subitement. » Et cette nouvelle, qui n'était malheureusement que trop vraie, venait de lui parvenir à l'instant. On peut dire, continuait-il, que je fus un des amis de la défunte. Lavretsky reprit ses vêtements, descendit au jardin et se promena de long en large jusqu'au matin. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Lem pria Lavretsky de lui donner un cheval pour qu'il pût retourner à la ville. « Il est temps que je reprenne mon travail, c'est-à-dire mes leçons, » dit le vieillard. « Je perds inutilement mon temps ici. » Lavretsky ne lui répondit pas tout de suite. Il paraissait distrait. « Fort bien, hein, » dit-il enfin, « je vous accompagnerai moi-même. » Lem fit sa petite malle, sans le secours du domestique, déchira et brûla quelques feuilles de papier de musique. On fit avancer la voiture. En sortant de son cabinet, Lavretsky mit dans sa poche le journal de la veille. Pendant le trajet, ils n'échangèrent tous deux que quelques mots. Chacun était occupé de ses propres pensées et charmé de n'être point troublé. Ils se séparèrent assez froidement,
ce qui du reste arrive souvent en Russie entre bons amis. Lavretsky reconduisit le vieillard jusqu'à sa petite maison. Celui-ci, en descendant de voiture, prit lui-même sa malle qu'il tenait serrée contre la poitrine et, sans tendre la main à Lavretsky, sans même le regarder, il lui dit en russe « Adieu !»« Adieu !» répéta Lavretsky en donnant l'ordre au cocher de se diriger vers sa propre demeure. Il avait un pied-à-terre dans la ville d'O. Après avoir écrit quelques lettres et dîné à la hâte, Lavretsky se rendit chez les Kalitin. Il ne trouva au salon que Panchine. Celui-ci lui dit que Maria Dmitrievna allait venir et entama avec lui une conversation du ton le plus cordial. Jusqu'à ce jour, Panchine traînait Lavretsky, non pas précisément avec hauteur, mais avec une sorte de condescendance. Et Lise, en racontant à Panchine son excursion de la veille, avait parlé de Lavretsky comme d'un galant homme et d'un esprit distingué. Il n'en avait pas fallu davantage pour que Panchine désirât faire la conquête de ce galant homme, de cet homme d'esprit. Il débuta par des compliments sur Vassilievskoye. Ce devait être ravissant, en croire les paroles d'admiration que faisait entendre toute la famille. Suivant son habitude, il amena adroitement la conversation sur lui-même, parla de ses occupations, de sa manière d'envisager la vie, le monde et le service. Il lança deux ou trois mots sur l'avenir de la Russie, sur la manière dont il faut tenir les rênes du gouvernement. À ce propos, il plaisantait agréablement de lui-même et insinuait qu'on lui avait fait entendre à Pétersbourg qu'il fallait populariser l'idée du cadastre. Il parla longtemps avec assurance et d'un ton négligé, tranchant toutes les difficultés et jouant avec les questions les plus ardues de la politique et de l'administration comme un escamoteur avec ses gobelets. À chaque instant, il lui échappait des phrases comme celle-ci. « Mais voilà ce que je ferais si j'étais le gouvernement. Vous êtes homme de trop d'esprit pour ne pas vous ranger à mon avis. » Lavretsky écoutait froidement les digressions de Panchine. Ce beau jeune homme, si plein d'esprit, d'une si élégante assurance, avec son sourire serein, ses yeux scrutateurs et sa voix insidieuse, lui déplaisait souverainement. Panchine s'aperçut aussitôt, avec cette faculté d'intuition qu'il possédait, que sa conversation ne procurait aucun plaisir à son interlocuteur, et il s'éloigna sous un prétexte plausible, décidant à part lui que Lavretsky était peut-être un galant homme, et un personnage peu sympathique, aigri, et en somme, assez ridicule. Maria Dmitrievna parut accompagnée de Gudelolovski. Elle fut suivie de Marta Timofievna avec Lise, puis des autres hôtes de la maison. Madame Belenitsine, amateur de musique, fit aussi son apparition. C'était une femme maigre avec un joli petit visage presque enfantin. Elle portait une robe noire d'un bruyant effet, un éventail de toutes les couleurs et de gros bracelets en or. Elle était accompagnée de son mari, homme épais, joufflu, haut en couleur, qui avait des cils blancs, de grands pieds et de grandes mains, et un sourire stéréotypé sur ses grosses lèvres. Sa femme ne lui parlait jamais dans le monde. Et à la maison, dans ses moments de tendresse, elle l'appelait « son petit cochon de lait ». Panchine revint aussi. Le salon reprit son animation. Mais tout ce monde déplaisait à Lavretsky, et Madame Belenitsine, qui le suivait de son lorgnon, le contrariait tout particulièrement. Si ce n'eût été la présence de Lise, il aurait aussitôt quitté le salon. Il désirait lui parler, mais il attendit longtemps le moment opportun et dut se contenter de la suivre de l'œil avec une joie secrète. Jamais son visage ne lui avait semblé plus noble et plus charmant. Le voisinage de Madame Belzenitsine lui était avantageux. Celle-ci remuait constamment sur sa chaise, faisait mouvoir ses petites épaules, rire d'un rire affecté, tantôt clignait les yeux, tantôt les ouvrait tout grands. Lise avait une tenue pleine de réserve. Elle regardait devant elle et ne riait pas. La maîtresse de la maison se mit à une table de jeu avec Marfa Timofievna, Madame Belenitsine et Gwedelonovski, qui jouaient lentement, se trompaient sans cesse et s'essuyaient constamment le visage. Panchine se crut obligé de prendre un air mélancolique. Il parlait par monosyllabes, avec cette expression d'homme désabusé qui sied à l'artiste incompris, et les instances de Madame Belenitsine, qui faisait la coquette avec lui et le suppliait de chanter, le trouvèrent inflexible. Il ne chanta point sa romance, Lavretsky le gênait. Théodore Ivanovitch demeurait également taciturne. Il avait un air singulier qui frappa Lise aussitôt qu'il entra. Elle pressentait qu'il avait quelque chose à lui communiquer, mais sans se rendre compte de ses sentiments, elle craignait de le questionner. Enfin, en traversant la chambre pour servir le thé, elle tourna, comme par un mouvement involontaire, la tête de son côté. Il la suivit. « Mais qu'avez-vous ? » dit-elle en plaçant la théière sur le samovar. « M'avez-vous donc remarqué quelque chose ? » balbutia-t-il. « Vous n'êtes pas aujourd'hui ce que vous êtes habituellement. » Lavretsky se pencha sur la table. « Je voulais, dit-il, vous communiquer une nouvelle, mais en ce moment, c'est impossible. Au surplus, lisez ce qui est marqué au crayon dans ce feuilleton. » ajouta-t-il en lui tendant le numéro du journal qu'il avait apporté. « Je vous prie de me garder le secret là-dessus. Je viendrai demain matin. » Lise était troublée. Panchine parut à la porte. Elle cacha le journal. « Avez-vous lu Obermann, Elisaveta Mikhailovna ?» lui demanda Panchine d'un air rêveur. Lise lui répondit à peine en passant et monta chez elle. Lavretsky rentra dans le salon et s'approcha de la table de jeu. Marfa Timofievna, toute rouge et son bonnet dénoué, se plaignait de son partenaire. Gwedionovski, suivant elle, ne savait pas jouer une carte. « Il paraît, disait-elle, qu'il est plus facile de forger des histoires que de jouer aux cartes. » L'autre continuait à cligner des yeux et à s'essuyer le front. Lise rentra au salon et s'assit dans un coin. Ses regards et ceux de Lavretsky se croisèrent et tous deux se sentirent mal à l'aise. Il lut dans les traits de la jeune fille de l'hésitation et comme un secret reproche. Il ne pouvait lui parler ainsi qu'il l'aurait voulu, et rester indifférent lui était impossible. Il se décida à quitter le salon. En prenant congé d'elle, il eut le temps de lui dire qu'il viendrait le lendemain et comptait sur son amitié. « Oh, venez !» lui dit-elle. Avec la même expression d'hésitation. Dès que Lavretsky fut parti, Panchine s'anima. Il entreprit de donner des conseils à Gwedelonovski, fit en raillant l'aimable auprès de Madame Belenitsine
et chanta enfin sa romance. Il garda toutefois vis-à-vis de Lise le même ton et le même regard. C'était quelque chose de triste et de profondément senti. Livretsky passa encore une nuit blanche. Il n'était pourtant ni affligé ni agité, et sentait au contraire le calme et la sérénité affluer dans son âme. Mais il ne pouvait fermer les yeux. Le passé ne lui venait même pas en mémoire. Il se concentrait dans sa vie actuelle. Les battements de son cœur étaient lourds et mesurés. Les heures s'enfuyaient, et lui ne songeait pas au sommeil. Par moments, une idée lui montait au cerveau, il se disait « Non, non, tout cela n'est pas vrai, c'est une folie !» Et il s'arrêtait en baissant la tête, et puis il cherchait à se rendre compte de sa situation et à sonder son avenir. L'accueil que fit Maria Dmitrievna à Lavretsky ne fut pas des plus bienveillants quand il parut le lendemain. « Le voilà qui prend des habitudes, » pensa-t-elle. Il lui plaisait peu, et Panchine, qui la tenait sous son influence, en avait fait la veille un éloge aussi perfide que dédaigneux. Comme elle ne voyait pas en lui un étranger et n'admettait pas l'obligation de se gêner avec un parent, une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'il parcourait les allées du jardin avec Lise. Non loin d'eux, Lenotchka et Strouchka folâtraient dans les parterres. Lui était plus pâle que d'ordinaire, sans se montrer moins calme. Elle retira de sa poche le journal et le tendit à Lavretsky. « Oh, c'est affreux !» dit-elle. Lavretsky ne répondit pas. « Mais peut-être n'est-ce pas vrai ?» ajouta Lise. « C'est pourquoi je vous ai prié de n'en point parler. » Lise fit quelques pas. « Dites, reprit-elle, vous n'êtes pas affligé, pas du tout. Ben, »« Je ne puis me rendre compte de ce que j'éprouve, » dit Lavretsky. « Mais vous l'avez aimé autrefois. »« Oui, je l'ai aimé, beaucoup. » « Beaucoup. Et sa mort ne vous cause pas de chagrin. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle est morte pour moi. C'est un péché, ce que vous dites. Oh, il ne faut pas m'en vouloir. Vous m'avez donné le titre d'ami, un ami peut tout dire. Je vous assure que j'éprouve une sorte de terreur. Hier, vous aviez une expression mauvaise. Vous rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, vous l'avez durement accusé, et peut-être qu'en ce moment même, elle n'était déjà plus de ce monde. Mais c'est effrayant. C'est comme un châtiment qui vous aurait été infligé. » Lavretsky eut un sourire amer. « Quoi, vous croyez ? » dit-il. « Mais au moins, je suis libre. » Lise frissonna légèrement. « Cessez de me parler ainsi. Que feriez-vous de votre liberté ? Vous ne devez penser à autre chose à présent qu'au pardon. »« Oh, il y a longtemps que j'ai pardonné, » interrompit Lavretsky en faisant un geste de la main. « Non, 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 ce n'est pas cela, » s'écria Lise en rougissant. Vous ne m'avez pas comprise. Vous devez songer à vous faire pardonner. Mais qui doit me pardonner ? Qui, mais Dieu ? Qui peut vous pardonner si ce n'est Dieu ? Lavretsky lui saisit la main. Ah, Lise, croyez-moi, s'écria-t-il, j'ai été suffisamment châtié. J'ai tout expié, croyez-moi. « Vous ne pouvez pas le savoir, » dit Lise à demi-voix. « Vous avez oublié. Il n'y a pas longtemps, quand vous m'en parliez, vous ne vouliez pas lui pardonner. »« Ils continuèrent à se promener en silence. « Et votre fille ?» demanda Lise. Et elle s'arrêta. Lavretsky, troublé, releva tout à coup la tête. « Oh, non, prenez point souci. J'ai déjà expédié des lettres dans toutes les directions. L'avenir de ma fille, comme vous dites, est assuré. Ne vous en inquiétez point. »
Lise sourit tristement.
« Ben, vous avez raison, continua Lavretsky. Que ferais-je de ma liberté? Quel besoin en ai-je?
Mais quand avez-vous reçu ce journal? Murmura Lise sans répondre à la question.
Le lendemain de votre visite.
Et réellement, vous n'avez pas versé une larme?
Non, j'ai été atterré. D'ailleurs, où aurais-je puisé des larmes? Pleurer le passé? Le mien est consumé. Sa faute n'a pas détruit mon bonheur, elle m'a prouvé qu'il n'avait jamais existé. Qu'y a-t-il à pleurer alors? Au reste, qui sait? Il se peut que cette nouvelle m'aurait plus affligé, venant il y a 15 jours.
15 jours, dit Lise. Que vous est-il donc arrivé pendant ces 15 jours?
Lavretsky resta muet. Élise rougit. « Oui, vous avez deviné !» s'écria tout à coup Lavretsky. « Pendant ces 15 jours, j'ai appris ce que c'était qu'une âme pure, et mon passé n'est plus que jamais éloigné de moi. »
Lise, toute troublée, s'écarta lentement pour rejoindre les petites filles dans le parterre.
« Et moi, je suis content de vous avoir montré ce journal, » lui disait Lavretsky en la suivant. « Je me suis déjà fait à ne rien vous cacher, et j'espère que vous me paierez de la même confiance. »«
Vous croyez ?» murmura Lise en s'arrêtant. « Oh, dans ce cas-là, je devrais... »« Oh non, mais non, c'est impossible. »«
Qu'est-ce ? Dites, parlez !»
Vraiment, il me semble que je ne dois pas.
Au reste, ajouta Lise avec un sourire en se tournant vers Lavretsky.
À quoi bon une demi-franchise? Savez-vous? J'ai reçu une lettre aujourd'hui.
De Panchin?
Oui, de lui. Comment le savez-vous?
Il vous demande votre main.
« Oui, » articula Lise en attachant un regard sérieux et pénétrant sur Lavretsky. Celui-ci, à son tour, la regarda sérieusement.
« Eh bien, que lui avez-vous répondu ? » dit-il avec effort.
« Je ne sais que répondre, » dit Lise en laissant retomber ses bras qu'elle tenait croisés.
« Comment? Mais vous l'aimez? »
« Il ne me déplaît pas. Il me semble que c'est un galant homme. »«
Vous m'avez dit exactement la même chose et dans les mêmes termes il y a de cela 4 jours. »« Je voudrais savoir si vous l'aimez de ce sentiment fort et passionné qu'on est habitué de nommer amour. »«
Comme vous le comprenez, non. »
Vous n'en êtes pas éprise?
Non, mais est-ce indispensable?
Comment?
Il plaît à maman, continua Lise. Il est bon, je n'ai rien contre lui.
Néanmoins, vous balancez.
Oui, et peut-être vous, avec vos paroles, vous en êtes la cause. Vous rappelez-vous ce que vous disiez avant-hier? Mais c'est une faiblesse.
Oh, mon enfant, s'écria Lavretsky et sa voix tremblait. Loin de vous cette sagesse mensongère. N'appelez pas faiblesse le cri de votre cœur qui ne veut pas se donner sans amour. Ne prenez pas une si terrible responsabilité vis-à-vis de cet homme que vous n'aimez pas et auquel vous vous laisseriez enchaîner.
Mais j'écoute, je ne prends rien sur moi, laissait échapper Lise comme une sorte de promesse.
Écoutez votre cœur, lui seul vous dira la vérité, poursuivit Lavretsky. L'expérience, la raison, tout cela n'est que 20 mots. Ne vous privez pas de ce qu'il y a de plus beau, du seul bonheur sur la terre.
C'est vous qui parlez ainsi, Théodore Ivanovitch. Vous vous êtes marié par amour, avez-vous été heureux?
Lavretsky joignit les mains. Ah, mais ne parlez pas de moi, vous ne sauriez comprendre ce que peut confondre avec l'amour un jeune homme sans expérience et sans éducation. Et puis, pourquoi se calomnier? Je viens de vous dire que je n'ai pas connu le bonheur. Mais ce n'est pas vrai. J'ai été heureux.
Mais il me semble, Théodore Ivanovitch, murmura-t-elle, toute troublée en baissant la voix. Quand elle n'était pas de l'avis de son interlocuteur, elle baissait toujours la voix. Il me semble que le bonheur sur la terre ne dépend pas de nous.
Ha ! Il dépend de nous, croyez-moi.
Il lui prit les deux mains. Lise pâlit et le regarda avec attention, presque avec terreur.
Il dépend de nous à condition que nous ne gâtions pas nous-mêmes notre existence. Pour quelques personnes, le mariage d'amour peut être un malheur, mais non pour un caractère ferme comme le vôtre et pour une âme aussi sereine. Je vous en supplie, ne vous mariez pas sans amour, uniquement par le sentiment du devoir, par abnégation, que sais-je. C'est aussi là du scepticisme, c'est un calcul et le pire de tous. Croyez-moi, j'ai le droit de le dire, j'ai chèrement payé ce droit. Et si votre Dieu...
En ce moment, Lavretsky s'aperçut que les deux petites filles s'étaient rapprochées de Lise et le regardaient avec un muet étonnement. Il abandonna la main de Lise, s'écria la hâte, « Pardonnez-moi !» Et il se dirigea vers la maison.
« Je vous demande encore une chose, » dit-il, en revenant vers Lise.
« Ne vous décidez pas trop vite. Attendez. Pensez à ce que je vous ai dit. Si vous ne faites pas estime de mes paroles, si vous vous décidez à un mariage de raison, dans ce cas encore, ce n'est pas Panchine qu'il vous faut épouser. Il ne peut pas être votre mari. N'est-ce pas? Vous me promettez de ne point vous hâter ?»
Lise voulut répondre, mais elle ne put dire un seul mot, donc elle eut pris le parti de ne point se presser, mais parce que son cœur battait trop fort et qu'un sentiment semblable à la peur pesait sur sa poitrine.